Eh bien, bonjour Madame l'Évêque, merci d'avoir répondu à notre invitation pour les podcasts de la recherche édition 2022. Vous êtes donc spécialisée en sociologie politique et sciences politiques. Vos domaines de recherche sont notamment l'analyse de la professionnalisation politique, la sociologie du genre, la sociologie de la communication et la parité en politique. Pour revenir un petit peu sur votre parcours, après une licence de droit puis un master de sciences politiques à l'Université Paris 1, vous y avez soutenu votre thèse de doctorat en 1996, intitulée « La construction journalistique d'une catégorie du débat public, spécialisation journalistique et mise en forme du social », sous la direction de Michel Auferlet. Après 6 ans donc passés comme maîtresse de conférence à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, puis à Paris 1, où vous étiez directrice du master communication politique et animation locale, vous êtes maintenant enseignante-chercheuse à Sciences Po Lille, rattachée au Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale, le CERAPS. Vous êtes bien sur les podcasts de la recherche présentés par Sciences Po Lille. Nous recevons donc aujourd'hui Madame Sandrine Lévesque. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si on peut commencer sur une première question, nous, ce qu'on a envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a mené à la recherche ?
Alors, qu'est-ce qui m'a mené à la recherche ? Donc, je pense que j'ai pris le goût de la recherche directement quand j'étais à l'époque, ça s'appelait une maîtrise de sciences politiques, où j'étais effectivement à Paris 1. Et je crois que je dois beaucoup à des rencontres, je pense notamment à une rencontre avec Bernard Pudal, une rencontre avec Jacques Lagroix, un tout petit peu avant, qui sont en fait des personnages qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment donné envie de faire de la recherche. Et du coup, je n'ai pas fait mon master 1 ou ma maîtrise et mon master 2 à Paris 1, mais j'ai fait un master 2 à l'école des hautes études dans ce master qui est aujourd'hui, qui s'appelait master de sciences sociales, qui était un master EHESS-ENS, et dans lequel on avait vraiment un vrai goût pour la recherche, et en particulier la recherche de terrain. Et à partir de là, je me suis dit que je pouvais continuer en thèse.
D'accord, merci. Et du coup, pour revenir un petit peu sur votre parcours académique, en 1996, vous présentez votre thèse en vue de l'obtention d'une maîtrise en sciences politiques. Elle s'intitule donc « La construction journalistique d'une catégorie du débat public, spécialisation journalistique et mise en forme du social », dirigée par Michel Auferlet et soutenue à Paris 1. Elle traite notamment de la question de la professionnalisation journalistique à partir du 19e siècle, de la définition du social, ainsi que de la place des journalistes dits « militants » dans celle-ci, confrontée à partir de la Seconde Guerre mondiale à l'arrivée d'un journalisme fondé lui davantage sur l'expertise et la compétence, notamment académique. Vous démontrez que c'est cette seconde catégorie qui va progressivement s'imposer, tant dans la fabrique des contours du groupe professionnel que dans la définition du social. Et donc ma question, c'est pensez-vous qu'il faille un retour d'un journalisme plus militant au premier plan médiatique pour permettre justement un retour à l'engagement des médias ?
Alors, du coup, c'est vrai que j'ai travaillé sur le journalisme engagé, et ensuite j'ai poursuivi mes recherches à la fois sur les journalistes qui ont traité des mouvements, notamment ce qu'on a appelé dans les années 90 le mouvement altermondialiste, donc où on avait des journalistes qui, à un moment donné, pouvaient remettre en avant leur dimension militante. Et pour au service, d'une certaine manière, de leur excellence journalistique. C'est-à-dire que on n'était plus dans un journaliste militant et d'un journalisme engagé comme on pouvait le voir au début du 19e, où on avait des journalistes, et en particulier ce qu'on appelait les messieurs de la chronique, qui prenaient position politique. Mais au contraire, c'était un engagement qui était un engagement qui permettait à ces journalistes, par exemple, d'obtenir des informations sur le terrain et de mettre ces informations au service de la profession journalistique. Ensuite, j'ai continué à travailler là-dessus, sur les femmes journalistes féministes, au sens où elles ont mis aussi leur engagement journalistique au service de la cause des femmes et au service de la cause des femmes journalistes aussi. Hein, c'est-à-dire qu'elles contribuaient par leur position à participer au journalisme. C'est vrai que j'ai un peu laissé tomber la question du journalisme aujourd'hui, donc du coup, c'est peut-être un peu compliqué de répondre est-ce qu'il faudrait des journalistes engagés ou pas engagés. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que, à l'heure où l'information est à la portée de n'importe quel téléphone où tout le monde est un peu journaliste, la valeur ajoutée des journalistes peut-être passer par une certaine forme d'engagement qui soit pas forcément un engagement politique, hein, au sens classique et militant, mais peut-être un engagement sur la forme, un engagement sur les manières de faire du journalisme, qui pourrait peut-être un engagement professionnel aussi, c'est-à-dire quand on voit les journalistes comme les journalistes de Médiacité, comme voilà, ils font autre chose du point de vue des formats, du point de vue de leur posture journalistique, différent que ce que peuvent faire les journalistes qui nous alimentent, qui alimentent les fils d'infos des différentes plateformes. Donc du coup, on a cette dimension du journalisme engagé qui pourrait aujourd'hui être une sorte d'issue, mais peut-être un peu obligatoire pour les journalistes, puisqu'on sait quand même que la profession est légèrement en crise. Donc donner une marque, donner voilà, être voilà, et c'est vrai qu'on voit que aujourd'hui c'est quand même je sais pas, avec le succès du reportage en BD par exemple, ça c'est des formes d'engagement qui peuvent entre guillemets sauver la profession journalistique.
D'accord, donc vous pensez qu'il y a un retour finalement sous une autre forme du journalisme militant,
d'une
forme
de militantisme. Du journalisme engagé en tout cas. C'est-à-dire, alors il y a toujours eu des formes d'engagement journalistique, parce que c'est vrai que les journalistes, pour obtenir des informations, doivent d'une certaine manière s'engager sur le terrain avec leurs sources et ensuite reprendre une forme de distanciation. Mais il y a des formes d'engagement, je vous dis, qui ne sont pas forcément des formes d'engagement militant, mais des formats journalistiques qui aujourd'hui semblent s'imposer et qui sont un peu différents de la simple nouvelle, du simple récit des faits. Et c'est vrai que c'est cette forme de journalisme qui marche. Enfin, je pense par exemple au travail qui a été fait sur les algues vertes, hein, cette enquête rendue en bande dessinée, hein, entre une journaliste et un dessinateur, où on a une enquête journalistique qui est formellement produite en bande dessinée. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir ce genre de format. On peut voir aussi hein, aujourd'hui des journaux qui finalement arrivent à s'imposer dans l'espace professionnel, fonctionnent, marchent, sont rentables et qui ont une forme d'engagement. Enfin, pour reprendre les journaux féministes, je juge pas, enfin je dis pas, mais comme Cosette ou comme La Déferlante, hein, par exemple, sont aujourd'hui des projets qui fonctionnent, qui ont un relatif succès, en tout cas un succès d'estime, parfois un succès commercial, et qui offrent des alternatives un peu différentes aux formes habituelles de journalisme.
D'accord, très bien, c'est vrai que c'est intéressant, ces nouvelles formes de journalisme engagé. Je me permets juste de revenir, vous avez parlé de notamment vos travaux sur les liens entre féminisme et journalisme, et c'est vrai qu'effectivement vous êtes spécialisée sur la sociologie du genre et avez beaucoup travaillé sur la question des femmes, que ce soit dans le champ du coup journalistique et politique. Et vous-même, en tant que femme, comment s'est construit un petit peu votre parcours dans le champ universitaire, connu comme plus ouvert, mais qui a jusqu'à récemment, en tout cas, était resté un milieu réputé très masculin?
Alors, c'est encore réputé masculin. Hein. Je regardais les dernières statistiques, je les évoquais là, avec les étudiants de master de recherche. Il y a encore, en termes de simplement de démographie, de la profession aujourd'hui en sciences politiques, hein, le nombre de femmes, c'est moins d'un quart des professeurs d'université qui sont voilà, donc il existe encore cette espèce de plafond de verre qui existe et qui font que bah voilà, femmes professeurs d'université, c'est pas quelque chose qui va de soi, hein. Alors il y a beaucoup plus de femmes maîtres de conférences, maîtresses de conférences, et beaucoup de docteurs, eux, en sciences politiques. Mais globalement, on peut dire que cette sursélection des femmes dans le métier académique sont compliquées. Ce n'est pas un métier de femme, hein, l'académie, j'allais dire. parce que les qualités attendues ne sont pas celles... Parce que les conditions de travail ne sont pas non plus très adaptées, hein, d'une certaine manière, quand on veut faire carrière à l'université, il faut bouger, il faut être mobile. Donc, quand vous êtes une femme, c'est plus compliqué d'être mobile. Enfin, il y a plein de... voilà. Et puis, je vous dis, sur les attentes du rôle, hein, c'est pas forcément l'image du professeur d'université. Elle est plutôt attachée à des qualités qui sont des qualités masculines. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de faire carrière dans l'université. On voit bien aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire le harcèlement, les violences, etc., etc., qui font qu'aujourd'hui, quand même, les femmes universitaires subissent des choses qui sont quand même très, très difficiles. Les MeToo universitaires est là pour le prouver. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est facile, y compris, j'allais dire, du point de vue des recherches, parce que quand vous commencez à travailler sur le genre, on ricane, et puis on s'interroge pourquoi c'est les femmes qui travaillent sur le genre. Donc, ce n'est pas des sujets qui sont ultra valorisés dans l'espace académique, au sens où ce n'est pas ça qui va vous permettre de faire carrière. Hein. Je n'ai pas été recrutée à Sciences Po Lille pour faire des cours sur le genre. Hein.
Tout à fait.
Il se trouve que quand on a la chance d'être à Sciences Po Lille, donc quand on a une spécialité, on a le droit d'enseigner, et on est même incité à enseigner sur ces spécialités. Mais dans les différents postes que j'ai occupés, que ce soit à Paris 1, que ce soit à Lyon ensuite, on m'a pas dit « Tiens, on veut une spécialiste du genre, viens nous rejoindre. Hein. On veut une généraliste en sciences politiques. » Et on n'a pas véritablement de... C'est pas vraiment des spécialités qui sont valorisées dans les carrières universitaires. Hein. Ça, c'est sûr. À la différence, je sais pas, des relations internationales ou même des politiques publiques, on va chercher des gens qui ont... ce type de spécialité. Je ne pense pas que les questions de genre intéressent particulièrement les établissements. Hein. Enfin, il suffit de voir le nombre de postes fléchés genre, par exemple, pour les maîtres de conférences. C'est très, très rare hein, en France. Donc, du coup, on est... voilà, c'est pas... enfin, j'allais dire, être une femme spécialiste du genre, c'est pas forcément... ben voilà, la voie la plus facile pour faire carrière à l'université.
On voit donc qu'il y a encore beaucoup de progrès à réaliser sur l'égalité des genres. Et du coup, j'ai une question, notamment nous, étudiants de communication et médias, question qui nous intéresserait en tant que spécialistes du coup des questions de genre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les médias français ont un rôle à jouer dans la lutte pour l'égalité des genres ?
Alors oui, je pense que les médias ont un rôle, auraient un rôle à jouer. Je ne suis pas sûre qu'ils contribuent. Alors après, les médias en général, c'est vrai que c'est parfois un peu globalisant. Hein. On peut les étendre un peu tout. Alors, ce qu'on voit quand même, hein, c'est que c'est quand même encore très très difficile de lutter contre les stéréotypes, que ce soit, alors si on prend médias au sens large, hein, parce que je fais le cours de la transverse qui s'appelle genre et médias, hein, dans la transverse, le cours qui s'appelle genre et médias, donc on traite à la fois médias au sens large, c'est-à-dire les journaux, on traite les jeux vidéo, le cinéma, les séries, et c'est vrai qu'on voit que les médias participent plutôt et malgré et en dépit de mouvements d'émancipation sur les stéréotypes. Il suffit de voir comment sont traitées les violences faites aux femmes, ben, comment est traité dans le cinéma, comment est traité Adèle Haenel, enfin des choses comme ça, où on a vraiment des formes de stigmatisation, alors peut-être pas des femmes en général, mais en tout cas des prises de position féministes qui ne sont pas encore complètement assumées, hein, ou bien l'omerta qui peut exister sur les violences subies par les victimes de PPDA, enfin bon, voilà, on voit quand même que c'est pas encore gagné de ce point de vue-là. Ce que je constate aussi, c'est que c'est finalement pas gagné en termes même d'apprentissage pour les journalistes. Enfin, il y a quelques années, je me suis rendu compte quand même en enseignant au CFJ, alors pas à l'ESJ, mais qu'en enseignant au CFJ un cours qui s'appelait classe race genre, j'avais encore des étudiants qui tenaient des propos extrêmement sexistes, hein, alors qu'on essayait. Et puis, à un moment donné, je me souviens qu'il y avait eu un projet de décret qui disait qu'il fallait, dans les écoles de journalisme, faire des cours de genre. Et il y avait une levée de bouclier de la part d'un certain nombre de directeurs d'école en disant « c'est notre liberté », etc. Donc, je pense que voilà, il y a un peu de progrès à faire de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi voilà, que les médias fassent de l'éducation à l'égalité. Alors, ça avance. Hein. J'allais dire, aujourd'hui, dans les médias, vous avez des mouvements. Je ne suis pas de celles qui disent qu'il ne se passe rien, hein, mais on voit apparaître des gender editors, on voit apparaître aussi des associations de femmes journalistes qui luttent pour, justement, une meilleure reconnaissance de la place des femmes dans les rédactions. Mais c'est vrai que quand on voit ce qu'elles subissent, ce qu'elles ont mis en avant, une association comme Prenons la Une, surtout les propos sexistes qu'elles peuvent exister dans les rédactions, ou bien, je sais pas, le documentaire sur Canal+, sur les journalistes sportives, voilà, on voit bien que subsiste déjà une certaine forme de machisme, on ne peut pas appeler ça autrement, dans les médias. Donc de là à faire le cap pour essayer de faire de l'éducation à l'égalité femmes-hommes dans les médias, c'est pas forcément gagné non plus.
D'accord, donc encore beaucoup de travail là-dessus. En tout cas, ce qui apparaît à la lecture de vos travaux et même dans vos propos que vous tenez, qui sont très intéressants, merci d'ailleurs, on voit que vous avez beaucoup travaillé sur le champ journalistique tout au long de votre carrière universitaire. Et ma prochaine question, c'est avez-vous vous-même envisagé d'embrasser une carrière journalistique? Ou pensez-vous qu'il est nécessaire finalement de ne pas franchir la frontière professionnelle afin de garder un certain recul en tant que chercheur, une forme de réflexivité?
Alors, non, ça m'est jamais venu à l'idée de devenir journaliste. Alors j'ai fait des stages hein, dans les rédactions, notamment des stages d'observation au moment de ma thèse. Et alors le truc qui était très drôle, c'est que j'étais avec des étudiants journalistes qui ne comprenaient pas du tout pourquoi j'étais pas du tout excitée à l'idée d'aller faire un reportage ou je sais pas quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'observer les rédactions. Je voulais dire, peut-être que ce que je racontais aussi aux étudiants en recherche là, c'est que souvent on est justement, c'est parce qu'on est un peu agacé par quelque chose qu'on va sur un sujet de recherche. Et c'est vrai que de voir les journalistes et en particulier l'idée, c'était de travailler sur les journalistes qui traitent des questions sociales et en particulier des conflits sociaux, de voir comment ces journalistes mettent en œuvre, là aussi, tout un tas de stéréotypes sur les conflits sociaux. Et j'allais dire, là, pour le coup, entre les années 90 et maintenant, on ne peut pas dire que ça ait beaucoup changé, hein, où les grévistes sont des affreux... la fameuse prise d'otage qu'on retrouve en fait dans les traitements journalistiques des conflits sociaux. Franchement, ça m'a jamais fascinée. Après, je pense qu'il faut avoir une attitude un peu compréhensive aussi, de savoir pourquoi les journalistes sont aussi enfermés dans certaines formes de contraintes qui pèsent sur eux. En termes de précarisation, en termes aussi de formation, en termes de format qui leur impose aussi un certain nombre de choses. Moi, je raconte toujours cette anecdote, on était avec tout un groupe de chercheuses qui travaillent sur la parité. Il y a une chercheuse de Bordeaux qui m'envoie un mémoire en disant « Voilà, regarde, il y a une étudiante qui a fait un mémoire sur les femmes... journaliste et sur les stéréotypes, et donc elle démontait tout à fait les logiques des stéréotypes. Et le premier article qu'elle fait en tant que journaliste, hein, cette étudiante, c'est un article, c'était sur Condoleezza Rice, donc elle nous avait envoyé le mémoire et l'article sur Condoleezza Rice, où on raconte que Condoleezza Rice met du rouge à lèvres, Yves Saint Laurent, qu'elle numéro je sais pas quoi, qu'elle s'habille chez telle, voilà, donc où elle réutilisait en fait tous les stéréotypes. Donc voilà, j'ai pas de fascination particulière pour ce métier de journaliste en tant que tel. Moi, j'ai besoin de temps pour écrire. Je pense que c'est voilà, les formats me et les conditions de travail ne me fascinent pas plus. Moi, je suis laborieuse, je réfléchis. Enfin, voilà, je pourrais pas être journaliste, voilà, en tout cas. Mais c'est pas une question de distanciation. Après, je respecte beaucoup le travail des journalistes, pas de tous les journalistes, mais de beaucoup de journalistes. Mais c'est vrai que c'est pas un métier qui me fascine.
Vous êtes donc une fine observatrice du milieu journalistique, mais également des questions de genre dans différents champs, comme nous l'évoquions précédemment. Et dans ce sens, j'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous de l'intersectionnalité comme prisme pour concevoir le monde social au-delà de la question du genre? Et également, ne pensez-vous pas, comme certains observateurs l'ont fait remarquer, que l'intersectionnalité comme prisme d'analyse est un paradigme qui se limite au domaine universitaire?
C'est d'abord un concept. Alors, c'est un concept à la fois universitaire et militant. Hein, c'est-à-dire que si on reprend dans la logique de la genèse de ce concept, notamment au moment où Crenshaw le met en place. Elle est à la fois juriste, académique, etc., et d'une certaine manière militante, et en particulier militante du black feminism, d'une certaine manière, voilà, pour aller très vite. Donc du coup, c'est un concept qui est à la fois académique, qui peut aussi nous permettre, non pas simplement de croiser les variables, hein, sinon ma grand-mère le fait très bien, hein, en disant « il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade », ça c'est un peu l'intersectionnalité qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, mais plutôt d'essayer de comprendre comment voilà, les variables se croisent, et comment, par exemple, l'exemple qu'on pourrait dire, comment, je sais pas, on peut féminiser les noirs, noircir les femmes, par exemple, qui serait plus exact d'une certaine manière quand on parle d'intersectionnalité. Est-ce que l'intersectionnalité doit sortir de l'espace académique? Oui, enfin, d'une certaine manière, oui, puisque tout ce qui est un apport des sciences sociales sert à comprendre le monde social, et donc d'une certaine manière on pourrait dire que l'intersectionnalité, comme la domination, comme la reproduction sociale, comme je ne sais quel type de concept, a vocation à alimenter le débat public. Ce qu'on voit aujourd'hui sur ces questions d'intersectionnalité ou cette notion de genre, c'est qu'on a quand même, on s'est quand même emparé de ces questions pour être une sorte d'épouvantail à je sais pas quoi, enfin, et du même coup, j'allais dire, c'est plus quasiment, enfin, utilisé dans l'espace public, ça devient plus un épouvantail qu'un véritable concept de compréhension du monde, quoi. Donc, moi, je pense que profondément, il faut comprendre ces questions, enfin, que c'est un concept hyper utile d'analyse historique, j'allais dire, pour reprendre la définition du genre telle que nous la donne John Scott. L'intersectionnalité est un moyen de comprendre beaucoup de choses dans l'espace académique. L'usage qui en est fait aujourd'hui dans l'espace politique, c'est un truc qui sert d'épouvantail pour disqualifier justement les académiques. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut aussi faire un travail peut-être de pédagogie pour qu'il soit utile comme catégorie d'analyse historique, comme dirait John Scott sur le genre. Voilà. Et le risque, c'est aussi qu'ils perdent, enfin, je termine là-dessus, mais on peut faire le parallèle avec le genre, et je pense que ce que dit John Scott et Butler, c'est que ça devienne finalement un concept qui perde de son potentiel critique, quoi. Et du même coup, ce serait dommage, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment d'analyser les processus de domination et les processus de domination croisée. Aujourd'hui, c'est soit un épouvantail, soit un truc tout mou qui nous dit, voilà, c'est comme le genre, c'est devenu juste le sexe social, quoi. Bah, le genre, c'est pas pour moi juste le sexe social. Le genre, c'est un rapport de domination, c'est une manière de dire les rapports de domination. C'est une manière de dire le rapport entre le masculin et le féminin. Et je pense que l'intersectionnalité, aujourd'hui, voilà, mais ça reste un concept extrêmement fort et qui donne des résultats du point de vue académique, quand il est bien utilisé dans des recherches. Voilà. Aujourd'hui, l'usage est un peu dévoyé, en tout cas dans l'espace public.
En tout cas, merci de nous éclairer un petit peu sur ce concept qui est vrai, qui est décrié par beaucoup d'observateurs extérieurs, notamment politiques. Pour revenir un petit peu sur votre carrière universitaire, il est vrai qu'à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous étiez donc directrice du Master Communication Politique et Animation Locale. Envisagez-vous ici, à Sciences Po Lille, de prendre des responsabilités similaires?
Oui, je pense que voilà, c'est le... Là, j'ai pas mal de responsabilités, donc on m'a un peu laissé tranquille. Parce que j'ai des responsabilités nationales d'une certaine manière, mais donc du coup pour l'instant à Sciences Po on m'a laissé tranquille en termes de responsabilités, mais comme mon mandat de présidente du CNU, de la section 04 du Conseil National des Universités se termine je crois en novembre 2023, je pense qu'à un moment donné je vais reprendre un diplôme, voilà, il faut que la responsabilité tourne aussi.
Et est-ce que justement, ces responsabilités en tant que directrice de master, c'est quelque chose qui vous apporte un plus dans votre quotidien d'enseignant-chercheur ?
Oui, ouais, mais c'est vrai que ça permet, enfin, c'est vrai que ces 10 ans, j'ai été un peu plus de 10 ans responsable du master. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, quand on accompagne les étudiants comme ça, parce que c'est quand même une opération quand même très impliquante du point de vue des étudiants, de leur insertion professionnelle, etc. C'est vrai qu'on a une meilleure visibilité de ce que deviennent les étudiants, de ce qu'ils sont, de ce qu'il faut leur apprendre. On en rabat peut-être aussi un tout petit peu sur nos savoirs académiques. En même temps, on se dit que il faut quand même rester exigeant. Enfin, voilà, ça permet aussi un questionnement sur ce qu'on apprend, sur la place du savoir académique dans l'opérationnalité, puisque les étudiants en com, quand même, ils sont... voilà. Moi, j'ai toujours tendance à leur dire aux étudiants en com, ce qui fait votre différence, c'est justement le fait que vous êtes des intellectuels, hein, parce que sinon, si c'est pour fabriquer des kakémonos, on n'a pas besoin d'un bac plus 5. Donc voilà, c'est vraiment aussi ce lien entre savoir académique, savoir professionnel. Donc c'est vrai que ça m'a toujours... j'ai toujours bien aimé... voilà, je garde toujours plein de contacts. Moi, je me suis mis sur Facebook pour justement garder des contacts avec mes étudiants. Donc là, maintenant, je crois que la première génération que j'ai sélectionnée, je me souviens, parce que c'était en 2003 quand je suis arrivée à Paris 1, hein, et j'ai toujours des contacts aujourd'hui avec les étudiants, de savoir ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont fait, enfin, avec beaucoup d'étudiants en tout cas. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup du point de vue de... Voilà. Après, ça prend aussi beaucoup.
Justement, ça tombe bien que vous parliez de la recherche et du temps que ça occupe. Vous, aujourd'hui, quelle place pensez-vous qu'occupe la recherche à Sciences Po Lille ?
Ah, à Sciences Po Lille ?
Oui.
C'est vrai que moi, je suis assez... Enfin, d'une certaine manière, moi qui viens de l'université, j'ai pas fait Sciences Po, donc je... Voilà. C'est vrai que, voilà, on a la chance quand même d'être adossé à un super labo. Enfin, franchement, le CERAPS... Je ne veux pas avoir l'air corpo, hein, mais c'est vraiment un labo génial, quoi, avec des gens géniaux. Et je trouve qu'on n'en profite pas assez. Hein. Enfin, voilà, que ce n'est pas assez considéré. Je suis toujours la fille qui râle parce qu'il y a des réunions de jeudi après-midi quand il y a le séminaire du CERAPS, quoi. Alors, je ne suis pas la seule à râler, hein, mais je suis parmi celles qui râlent. Moi, je ne sacrifierai jamais. Je pense qu'il faut toujours garder... les deux pieds enseignants et chercheurs, parce que sinon, sinon on n'enseigne pas bien, quoi, si c'est pour ne pas, dans son enseignement, faire juste un enseignement figé, qui n'est pas de rapport avec la recherche, qui ne permet pas de se questionner, qui ne permet pas de remettre en cause les évidences qu'on avait cherchées avant. Voilà, ça ne sert à rien à ce moment-là. Donc, pour moi, il faut vraiment... Voilà. Et puis on a quand même un rôle social à jouer en tant que chercheur qui ne doit pas être négligé. C'est-à-dire que non seulement la recherche, à mon avis, irrigue l'enseignement, et je pense que moi, je ne serais pas une bonne enseignante si je n'étais pas chercheur. Franchement, je pourrais, hein, mais ça serait pénible, mes cours. Là, au moins, je doute, je raconte mes recherches aux étudiants, des fois, mes doutes. Et ça, je pense que c'est important. Du coup, ça... montre aussi aux étudiants c'est quoi une démarche académique, c'est pas figé, etc. Et en même temps, je trouve qu'il faut aussi conserver ça, parce que c'est important de faire de la recherche, c'est important d'apporter des connaissances, de déconstruire, d'être critique, d'avoir... Voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Bon, moi, c'est vrai que j'ai fait plusieurs... établissement, donc du coup, à chaque fois, j'ai remonté des services, donc j'ai l'impression que des fois, je fais que des cours, là, mais j'ai quand même toujours essayé de maintenir un peu de recherche. Mais j'ai travaillé sur les élections, là, de 2017, et c'est vrai que là, on avait... Quand on a des projets collectifs, par exemple, ça aide aussi pour faire de la recherche, et de se maintenir un peu avec les autres chercheurs. Ça, c'est aussi agréable. Et c'est vrai qu'au CERAPS, là, je n'ai pas encore eu le temps de monter des projets collectifs, mais j'espère qu'on va pouvoir monter des projets collectifs.
Justement, vous évoquiez, le CERAPS avec lequel vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la nature de ce centre de recherche, sur l'organisation, les missions, les valeurs qui sont défendues par ce centre ?
Alors, c'est vrai que le CERAPS, c'est un centre historique en sciences politiques. Il n'y a pas que des politistes, mais il y a beaucoup de politistes. Mais il y a des juristes, quelques économistes... et des civilisationnistes, puisque par exemple Alice Béjin est au CERAPS, donc il y a pas mal, c'est un centre pluridisciplinaire comme beaucoup de centres, donc c'est une UMR, hein, une unité de recherche associée au CNRS, donc c'est à la fois, il y a une triple tutelle, hein, puisqu'il y a une tutelle Sciences Po, Université de Lille et CNRS, donc ça veut dire, voilà. Moi j'ai co-dirigé, directrice adjointe d'études, le CESP, j'ai oublié là le terme, comme ça, sciences politiques de la Sorbonne. Hein. Donc, c'est des labos qui sont quand même des labos sous CNRS. Donc, voilà. Après, c'est vrai que voilà, la tradition du CERAPS, moi, elle correspond à mes choix de recherche aussi. Alors, on n'est pas tous le doigt sur la couture du pantalon, mais cette vision d'une sociologie critique, d'une sociologie politique critique, d'une sociologie politique empirique, d'une sociologie politique pas engagée, mais quand même une certaine forme d'engagement au sens où on a une vision plutôt de la sociologie critique. Je pense que ça me convient super bien, quoi. Voilà, c'est vraiment un labo de ce point de vue-là qui est... Puis c'est un labo, alors ça que j'avais pas vu encore vraiment, pourtant du coup j'en ai fait quand même pas mal des labos, entre le CESP, Triangle et ici, c'est un labo, je sais pas, c'est un peu ringard de dire ça, mais c'est un labo hyper inclusif, enfin voilà, où on fait attention aux doctorants, parce que c'est pas facile quand même d'être doctorant, on fait attention aux ingénieurs d'études et de recherche, hein, où il y a quand même une espèce de politique où on fait gaffe un peu, pas trop de séparation des statuts, où on est vraiment dans une dynamique collective. Et c'est vrai que le CERAPS avait déjà cette réputation, mais c'est vrai que par rapport aux autres centres de recherche, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment c'est très, 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 très inclusif. Voilà. C'est un labo. Non, on se sent bien en fait. C'est comme ce que je dis, c'est quand je suis arrivée là-bas, c'était un peu, je sais pas, j'ai un peu l'impression de trouver le labo qu'il fallait, quoi. Génial, quoi.
Et bah, une très belle note en tout cas pour nous amener vers la fin de cette discussion. Et avant de terminer du coup notre échange, j'aurais une dernière question à vous poser. C'est quel conseil donneriez-vous à une jeune étudiante ou un jeune étudiant qui souhaiterait se lancer dans la recherche ?
Ah. Non, c'est super. Franchement, c'est un métier génial. C'est un métier où on est libre. Alors, même si les gens disent qu'on n'est pas utile, moi, je reste persuadée qu'on a une utilité sociale forte. Et puis, en plus, quand on est enseignant-chercheur, on a d'autant plus d'utilité sociale que de porter ces petits étudiants vers le travail et vers la vie, quoi. Après, c'est vrai que c'est un métier qui est un peu solitaire, donc c'est bien de voilà. Sinon, j'ai pas trop de c'est un métier qui est dur là, du point de vue vu le changement des statuts aujourd'hui académiques avec ce que nous prépare. Je trouve que je ne suis pas sûre que les gens auront le statut que nous, on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire un statut qui garantit aussi notre liberté académique, qui est un statut de fonctionnaire. Hein, on n'est pas bien payé, mais au moins, on est libre académiquement. Là, ce qui se prépare avec notamment la loi de programmation sur la recherche et le détricotage des statuts, je leur dirais bon courage, parce que c'est vrai que c'est compliqué du point de vue des statuts, des postes, de la précarité, de la précarisation. Donc c'est vrai qu'il faut aussi s'attendre à ça. Que donc d'un côté, c'est un métier merveilleux, utile, etc. Et que d'un autre côté, on n'est pas non plus la priorité de l'espace de la dépense publique, hein, j'allais dire. Et c'est vrai que là, enfin, moi, pour avoir assisté depuis 4 ans au vote de la LPR, là, c'est vrai, par exemple, vous dites le CERAPS, aujourd'hui, on rentre dans un mouvement de précarisation extrêmement forte des statuts d'enseignants-chercheurs, avec notamment ce qu'on appelle les chaires juniors, voilà, où il va y avoir des statuts extrêmement différents, avec des gens super privilégiés, parce que super excellents, parce que je ne sais pas quoi. Nous, au CERAPS, on a voté une motion en disant qu'on refusait de soutenir des chaires juniors, parce que ça suffisait, c'était pas la peine de donner tout à Paul et rien à Pierre, quoi. Mmh. C'est même pas déshabiller, quoi, c'est donner tout à Paul et rien à Pierre, et de maintenir des étudiants, des doctorants et des jeunes chercheurs dans la précarité, et d'autres qui seraient dotés de toutes les primes, des assistants, des machins. Bon, voilà. Donc c'est vrai que faire de la recherche aujourd'hui, il faut vraiment... voilà. Mais en même temps, il y a des financements de thèse. Bah, déjà, faire une thèse, c'est déjà une belle aventure en soi. Mais après, c'est sûr que c'est un métier qui n'est pas facile. Enfin, qui n'est pas... Voilà, il y a beaucoup de précarité, et j'allais dire, c'est pas de la faute des... Il y a beaucoup d'excellence. Beaucoup de... Enfin, franchement, les doctorants sont excellents, et les doctorantes sont excellentes. Et c'est pas des magots de dire ça, hein. C'est vraiment un niveau... Enfin, du point de vue de ma position de présidente du CNU, je vois des dossiers de jeunes docteurs... qui sont excellents, et quand à chaque fois que je termine cette session du CNU, en février, ça fait 4 ans que je le fais, là ça va être la 4e année, j'ai juste envie de pleurer de voir un tel gâchis, quoi, parce qu'on a des gens qui sont excellents. Alors après on dit, les carrières universitaires, on va créer des chaires, parce que quand même, les carrières universitaires, elles ne sont pas attractives. Bah si, en fait, elles sont attractives, puisqu'à chaque fois qu'on met un poste, il y a 100 candidats, et sur ces 100 candidats, il y en a 98 qui sont excellents, qui mériteraient le poste. Donc si, elles sont attractives, les carrières universitaires. Juste, il faut, voilà, on n'a pas besoin de... Voilà, il faut juste les garantir, empêcher la précarité. Voilà. Mais je ne suis pas sûre que ça encourage vraiment les gens à faire de la recherche. Mais voilà, c'est quand même un métier super. Mais voilà, c'est un métier difficile.
Il présente ses difficultés, oui, tout à fait. Bah, en tout cas, malgré les difficultés présentées, il me semble qu'il s'agit effectivement d'un très beau métier que vous avez très bien défendu et très bien mis en lumière, ce qui était le but de ce podcast. Et donc pour ça, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir réagi aussi vite. En tout cas, pour vous qui nous écoutez, on espère que ce podcast vous a plu. Merci d'avoir choisi les podcasts de la recherche. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.